Ici Olivier Bourmas. Dans le balado de Rad, je discute avec des gens qui ont un propos pertinent sur des enjeux de société. La petite particularité, c'est que j'ai aucune idée de qui je m'apprête à interviewer avant que la personne s'assoie en avant de moi. Ça donne des échanges sincères, spontanés, sur tout plein de sujets, un peu comme dans un souper entre amis. Le balado de Rad, c'est à écouter sur Radio-Canada Audio.
Salut, c'est Paola, directrice de l'information à Choc, la web radio de l'UQAM. En ce moment, je recherche des reporters bénévoles. Donc, si t'es attiré par le journalisme de terrain, n'hésite pas, rejoins nos équipes. Et pas besoin d'avoir de l'expérience, on te forme gratuitement à la prise de son, au montage et à la réalisation de reportages. La seule chose à faire pour ça, c'est de remplir notre formulaire « Créer des reportages » sur le site choc.ca dans la section « S'impliquer ». À très vite!
Salut, c'est Alex Burger, vous écoutez Choc, et puis j'aime quasiment ça. À bientôt.
Parfait, ça, je pense.
Yeah, OK.
Salut tout le monde! Comment ça va? Avez-vous passé une belle fin de semaine? En tout cas, moi, oui. Je me suis reposée. J'ai pas trop fait de sorties culturelles, mais je suis tellement contente de vous dire encore un beau coucou pour ce nouvel épisode de votre magazine culturel préféré, Dans les airs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nathaniel et Carl. Alors, au menu, Nathaniel et Carl nous proposent... En fait, Nathaniel, en premier, il y a non seulement pas une, mais deux chroniques littéraires de préparer pour nous. C'était quoi déjà le titre, Nathaniel, qu'on avait donné à tes chroniques?
L'univers du quotidien.
Et voilà, pour l'univers du quotidien en version double pour et cette oui. émission. Et nice. On a aussi Carl qui va nous faire une chronique sur l'urbex, en fait.
Ouais.
Que c'est en fait l'exploration, sur l'exploration urbaine. Alors, ce que je vous propose, pour commencer, Nathaniel, tu peux commencer avec ta chronique de ton choix. Ensuite, on va aller voir Carl pour l'urbex et on va revenir avec Nathaniel. Qu'est-ce que vous en dites?
Ça me va, une très bonne idée.
On part, go!
Alors pour cette première chronique, je l'ai rédigée durant les vacances de l'hiver. Alors excusez, la date est un peu plus tard, mais je vous présente tout de même Pelleter des lettres. Le 30 décembre 2023, 6 quotidiens régionaux publiaient pour la dernière fois une édition papier. Ça rappelle l'édition papier d'automne du Montréal Campus, quoique eux n'ont pas soulevé autant de réactions avec leur contenu, vu que plusieurs ont choisi de s'asseoir et se souvenir de leurs centaines d'années d'activité en papier. Comme on peut le lire dans un article de Radio-Canada, Le Droit de Gatineau/Ottawa, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke et La Voix de l'Est de Granby miseront dorénavant sur le web et les applications mobiles pour atteindre leur lectorat. On parle ici des coops de l'information. Donc, c'est un autre support papier à l'information qui perd les pieds et tombe dans le trou. Oublié? Désuète? Pas plus qu'une boîte aux lettres. Vous êtes-vous déjà demandé ce que dirait une boîte aux lettres si elle était vivante?
Angoisse.
Moi, je pense qu'elle parlerait comme un conducteur de train dans le temps. Imaginez une moustachue des années 1900 avec son petit uniforme bleu marin. Dans le fond, là, leur job se ressemble. S'assurer que tous ces êtres de passage se rendent à leur destination. Œuvrer pile là où le présent est porte-pas. Juste le passé et le futur. Juste d'où on vient et où on va. Observer sans se mêler, sans prendre part à la mêlée, sans être tout mêlé à la fin. Est-ce que les boîtes aux lettres comprennent le contenu des enveloppes qui leur sont administrées par voie postale? Poser la question. On va se le dire, c'est y répondre, puis franchement, comme chronique, ce serait poche si la réponse était non. Moi, je pense instantanément aux lettres de Seconde Guerre mondiale. C'est étrange. J'imagine la boîte aux lettres verser une larme. D'ailleurs, ça ressemble à quoi une boîte aux lettres qui verse une larme? En recevant la lettre d'une maman qui a hâte que son fils rentre en permission et qui reçoit l'instant d'après une lettre annonçant son décès en service. Moi, je pense à l'achalandage des jours de livraison quand toutes les familles reçoivent des nouvelles du père, du fils, de l'amoureux. Je vois la boîte aux lettres au coin de ma rue sourire au souvenir de ces deux petits jeunes qui s'aimaient et se le disaient par la bosse, même s'ils habitaient à côté. D'ailleurs, ils habitent encore là, puis ils s'envoient chaque année un « je t'aime » bien écrit. Je remarque leur dos qui s'affaisse, la ligne de pluie plus tenace juste sous la fente pour déposer les lettres, La musique du vent s'engouffrant entre leurs pattes qui se fait mélancolique alors que les dépliants remplacent les lettres cachetées, les rabais coupent court aux déclarations d'amour et les spéciales, nouveaux et pour un temps limité, remplacent les affectueusement vôtres, chaleureusement tiens et surtout les je t'aime. La boîte aux lettres a perdu sa job en même temps que plein d'autres mondes. Elle regardait les médias sociaux grossir, puis dans le fond, comment elle saurait que les médias sociaux y étaient là? Tu sais, c'est pas comme si t'envoyais une lettre à ta grand-mère en disant « Hey, grand-maman, lâche ça, je t'envoie un Snapchat, tu me répondras sur Messenger, on se FaceTimera à Noël. » Excusez, je pense que le fantôme d'un boomer a pris contrôle de mes touches de clavier. Une grand-mère a pogné les nerfs, je sais pas, ça doit être le facteur âge. Mais au-delà des jobs perdus en rapport avec la poste, parfois, moi qui suis né à l'ère des réseaux sociaux, je me demande, en arrêtant de s'envoyer des lettres, quoi d'autre qu'on a perdu? Moi, je crois que les boîtes aux lettres sont passées par les 5 phases du deuil et qu'à la fin, elles ont accepté leur sort. Non, mais quand même, là, elles sont fières, nos boîtes aux lettres. Elles se tiennent toutes droites, toutes choses considérées, puis elles nous regardent courir avec une espèce de sentiment de pitié. Nos boîtes aux lettres ont pitié de nous. Nous qui essayons de ralentir la cadence qu'on s'est imposée, on l'a accélérée. On avait trop de jobs, on a créé des machines qui travaillent à notre place, maintenant notre job c'est de les entretenir, puis tout le temps. Hein. Rappelez-vous de Léopold que Michel Tremblay avait mis en scène dans « À toi pour toujours, ta Marie-Lou », je le cite. « Tu viens que t'es tellement spécialisé dans ta job steady que tu fais partie de ta tabarnak de machine. C'est elle qui te mène, c'est plus toi qui watch quand elle va faire défaut, c'est elle qui te watch! » On était fermiers, forcés à traire des vaches qui prennent pas de congé, mais nous, aux médias sociaux non plus, faut nourrir la bête, envoyer des pubs, des posts Facebook, donnez-lui à manger, sacre bleu, sinon c'est nous qu'elle va bouffer, on n'en fera jamais assez! On sera jamais assez. On s'en sortira jamais. On creuse, puis on creuse, puis on dirait qu'on réalise même pas que la terre qu'on envoie par-dessus notre épaule, elle nous retombe ses talons. Nous qui cherchons la sortie. On s'enfonce dans le trou. Et finalement, peut-être juste les pelleteux de nuages qui creusent dans la bonne direction.
Nathaniel, merci tellement pour cette belle écriture et cette belle lecture. Là. À chaque fois, pour vrai, je suis flabbergast.
Ouais.
C'est un si grand plaisir de pouvoir faire ça. Merci de me donner cette opportunité.
Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un retour tout de suite parce que je sais que je vais perdre toutes mes petites puis toutes mes idées sûr. Que tu m'as apportées avec ce texte extrêmement imagé, en fait. Première observation, c'est vraiment quand tu as posé la question, ça ressemble à quoi une boîte aux lettres? Une lettre ou une boîte aux lettres qui verse une larme?
Ouais, une boîte aux lettres qui verse une larme.
Moi, tout de suite, c'est ça à quoi j'ai pensé?
À quoi?
J'ai pensé à un paper cut, tu sais, quand tu te coupes le doigt avec un papier, là.
OK, ouais.
Pour moi, ça, c'est une boîte aux lettres qui verse une larme.
Ah, oui.
You know what I mean? C'est comme, ça fait mal. Puis c'est genre, tu sens la peine du papier quasiment. Genre, je sais pas.
Ouais.
Ça a été poétique autant que Nathaniel, mais je sais pas si ça marche.
mais actuellement, je finis par y retourner sur une boîte aux lettres. Lorsque je mentionne, je vois une ligne de pluie plus tenace juste sous la fente où est-ce que t'insères les lettres.
Attends, quoi?
Ouais, il y a un segment où est-ce que je remarque le dos qui s'affaisse. La ligne de pluie plus tenace juste sous la fente pour déposer les lettres.
Oh mon Dieu.
Je réponds à ma question.
Oh mon Dieu, c'est.
Oh my God!
Inception! Mais il y a quoi d'extrêmement nostalgique aussi dans ton texte et aussi dans la réflexion sur, tu sais, que de perdre ou de dire un peu au revoir au médium des messages matériels. C'est littéralement ça. Puis je suis peut-être un peu trop romantique, mais moi, d'après moi, ça va pas jamais disparaître totalement comme. Encore une fois, je vais faire une belle comparaison avec la peinture parce que c'est ma passion. Allô, si vous êtes tanné de m'entendre parler de peinture, je suis désolée, mais ça va continuer quand même longtemps. Bref, mais il y a de quoi de, justement, à perdre un médium ou à le voir se transformer parce que ça restera toujours extrêmement romantique, extrêmement... c'est ce nostalgique d'envoyer une lettre à quelqu'un. Qui t'envoie des lettres aujourd'hui? Moi, j'ai un ami...
Le gouvernement.
Le gouvernement, je parle d'une personne, d'un humain que tu connais. T'sais. Moi, j'ai un ami, quand il va faire des expos à l'international, il a pris l'habitude d'envoyer des cartes postales à tous ses clients, puis à tout son entourage, donc à moi aussi, à ses amis, à sa famille. C'est habituellement ce qu'il fait, c'est... Son nom, c'est Oli Corneau. Puis habituellement, ce qu'il fait, c'est... il prend, en fait, une photo d'une de ses œuvres, il la transforme en carte postale, puis après, il te l'envoie, puis il donne un petit feedback de son voyage puis de ses aventures, tu sais. Puis non seulement c'est vraiment un bon point de vente pour un artiste, mais il y a aussi une espèce de lien très particulier, tellement plus intentionnel. La personne a pris le temps d'écrire à la main, de te l'envoyer, de se faire chier à mettre un timbre, tu sais. Il y a comme des steps que c'est pas juste un message texte, c'est vraiment, il y a une intention tellement plus forte en arrière.
C'est vrai. C'est une question de temps. C'est la même raison pour laquelle j'aime beaucoup écrire des cartes de bonne fête. Mais le temps de prendre le moment d'aller chercher le
ou
papier.
De faire la carte aussi.
De faire la carte, exactement, de la décorer, de l'écrire.
Oh mon Dieu, j'aime tellement ça, faire ça à Noël à ma famille. Là.
Ah, c'est cool, ça.
Là, cette année, j'ai moins de temps, mais habituellement, ce que je fais, c'est, je prends une photo, puis après, je la modifie sur iPad, puis après, je l'imprime, je mets des glitters. Il y a des glitters partout, tout le monde est gossé, mais moi, j'aime ça. Là. Genre le glitter bomb pour tout le monde, mais comme, je comprends tellement l'espèce de DIY truc qui est comme plein d'amour, en fait. Puis quand je faisais le lien aussi avec la peinture, c'est que, tu sais, souvent les gens ils disent « Ah, la peinture, c'est mort. » C'est comme une espèce de cliché à travers les années qui est comme perpétué. C'est de dire « Ah, oh, mon Dieu, paint is dead. » Genre, mais c'est pas vrai, en fait. Elle se renouvelle au travers des générations, au travers de la société qui se renouvelle aussi, etc., etc. Fait que ça me fait beaucoup penser aussi avec la relation que j'entretiens avec le médium de la peinture qui est, on s'entend, pourquoi je continue à peindre? Je pourrais tellement juste faire de l'art digital. Ça serait plus pratique, ça serait plus rapide aussi, côté temps, tu sais. Mais il y a de quoi de vraiment, de, pour moi, de précieux à conserver en termes de craft, tu sais.
Et tu disais que, d'après toi, ça allait jamais disparaître. Mais j'aimerais faire un lien avec quelque chose dont tu nous as parlé avant même d'entrer en studio. Les vinyles.
Ah oui! Mais ça, c'est comme... Il y a aussi, par contre, les vinyles, c'est que c'est rentré dans une espèce de mode. Je veux dire hipster, tu sais. C'était vraiment là, tu sais, c'était le classique. OK, tu vas Urban Outfitters, tu vas acheter ton petit... Tu sais, puis c'était comme... C'est encore à la mode aujourd'hui, mais il y a comme une espèce de courant fashion aussi qui était attaché avec ça. Fait que je pense que ça l'a aidé. Parce que pour vrai, oui, c'est le fun, les vinyles. Puis oui, il y en a qui vont dire comme... ben, le son est différent, il est plus riche. Mais je sais pas. Dans la musique en soi... Peut-être pas, mais le fait d'aller tourner ton vinyle, ça te fait rendre compte, OK, là, je viens d'écouter un album au complet, ou OK, là, tu sais, la temporalité, là aussi, est très importante.
Oui, puis de prendre conscience de qu'il y a des actes, c'est là, tu peux le sentir beaucoup plus.
C'est un objet, c'est...
Matériel. On perd beaucoup de matériel présentement.
Ouais.
On est très matérialiste.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Oui, mais on perd beaucoup de matériel.
On y met de la signification à cet objet-là, finalement. C'est même pas l'objet en soi qui est important, c'est tout ce qui est autour.
Le physique, l'espèce de,
Le rituel.
Le rituel, exactement. Comme les rituels du thé, un petit peu. Ah, Non, mais j'adore. Merci beaucoup aussi d'avoir ramené Michel Tremblay sur la table. Il a fallu que je baisse un peu le son de ton micro parce que j'étais comme, oh my God, OK. Tu m'avais prévenu aussi un peu. Je ne savais pas que ça allait être aussi expressif. Merci beaucoup, Nathalie. Carl, est-ce que tu avais quelque chose à partager par rapport à ça?
Il y a une phrase particulièrement qui m'a vraiment... où je me suis vraiment reconnu dedans. C'est où tu dis que... Alors... je vais le dire dans mes mots, là, je me souviens pas exactement. Tu fais un lien entre le fait qu'on a inventé des machines pour nous sauvegarder du travail, mais que finalement, on passe autant de temps à les maintenir tout le temps, en fait. Et ça, c'est le récit de toute ma vie.
Ça fait mal un peu à entendre. Ouais. Comme, ouf,
c'est tellement vrai.
La matrice.
C'est tellement vrai. Bravo, Nathalie. C'est vraiment cool. Vraiment nice.
Carl, est-ce que tu es prêt à nous parler de l'urbex? Je savais même pas que ça s'appelait urbex, by the way.
Ouais, ben, alors, bon, je vais essayer parce que passer après Nathanelle, je comprends que...
On en est tous dans des vibes différentes. C'est pour ça que c'est fun dans les airs. On est dans les airs. On est comme, OK, let's go.
Exactement. Et oui, oui. Savez-vous ce que c'est l'urbex? Avez-vous déjà entendu parler?
Moi, je vais être bien honnête. Parce que, tu sais, quand vous montrez vos sujets, genre, je les vois comme à l'écrit. En premier, pour vrai, un bon 3-4 fois, je lisais Uber X. Je sais pas pourquoi il veut parler de Uber X, le phénomène de Uber X. C'est comme, peut-être qu'il veut parler, genre, de la situation des travailleurs à Uber X. Je sais pas, mais on n'est peut-être pas dans l'émergence, mais OK.
Ça se peut. Prochain sujet, Uber X. Je vais inviter un chauffeur.
Pour vrai, why not? Ça serait quand même probablement extrêmement intéressant.
Exactement. Mais non, mais l'urbex, en fait, c'est... alors, c'est une pratique. Urbex, c'est le diminutif de Urban Exploration. Donc, alors ça, c'est un mot qui a été inventé par l'un des très grands noms de l'urbex, qui s'appelle Ninjalicious, qui est canadien, torontois.
Ninjalicious.
Ouais,
j'adore.
Ouais, c'est ça. Oh, non. Alors, l'urbex, c'est l'art de parcourir les lieux abandonnés, des bâtiments désaffectés, et de capturer la beauté cachée dans ces ruines-là, dans la désuétude un peu. C'est pour ça que je voulais rebondir sur la désuétude de la boîte aux lettres. Là,
ouais, ouais. C'est drôle.
C'est bon, j'ai sorti le mot. Et en fait, ça va être beaucoup par des photos, par des vidéos. Alors, il y en a plein, des vidéos sur YouTube, etc. Donc, des gens qui vont aller visiter des endroits abandonnés. Et en fait, ce que ça crée, en fait, c'est une source d'inspiration énorme. On peut voir plein de photos. De l'urbex, y a plein de photos d'albums de gens. Moi-même, j'ai déjà utilisé des photos des gens qui font de l'urbex pour mes chansons, pour mes albums, etc.
Comme visuel, admettons.
Comme visuel. Okay. Ouais. Ouais, c'est un médium visuel incroyable. Ensuite, y a une deuxième chose, c'est que ça fait renaître des aspects historiques dans une ville, en fait.
Okay. Oui, des moments passés, des périodes passées.
Ouais, ouais, ouais. Des moments dont on ne se souvient plus, dont on a oublié complètement que c'était là. Alors, à Montréal, il y a une page, il y a deux pages, sur Facebook et sur Instagram, ça s'appelle Urbex Montréal.
Urbex Montréal, on va les mettre en lien.
Sur Facebook, ils sont sur Urbex Montréal. Alors, c'est ça, un petit disclaimer, les amis, même si je trouve ça cool... en aucun cas, je n'influencerai quelqu'un à faire ce genre de pratique.
On n'encourage pas les gens à aller se balader en haut des tours complètement illégalement. C'est vraiment pas ça dont on parle.
C'est ça. Parce que, mes amis, c'est ça. Ça reste interdit.
On déconseille. Oui, voilà. On déconseille fortement. On parle du phénomène,
exactement,
mais on ne l'encourage pas.
Ouais.
Que ce soit clair.
Ouais, c'est ça. Eh bien, sur cette page-là, sur la page Facebook, saviez-vous qu'il y avait un hippodrome à Montréal? Ils faisaient des cours de chevaux.
Il n'y en avait pas?
Ah, hippodrome, ils faisaient des cours de chevaux.
Tu sais, qu'est-ce que Charles Bukowski aime vraiment beaucoup trop?
Ouais.
Excusez.
je ne savais pas.
Mais il y en avait un à Québec, mais je ne savais pas qu'il y en avait un à Montréal.
Il y en a un qui est complètement abandonné. Et ils se sont infiltrés dedans avec des photos. Vraiment, tu vois les vestiges de cette histoire-là passer.
Ouais.
Puis après, tu as toute une histoire avec... je pense que ça a fermé dans les années 80. Mais tu sais, il y a toute une histoire derrière ça. Et ça te ramène ce phénomène-là. Et ça est vraiment... Ouais.
Les mœurs aussi des gens avant, c'est tellement plus populaire. Tu sais, c'était comme une espèce de rassemblement social quasiment. On n'a plus ça dans notre culture aujourd'hui.
Moi, j'adore... Là. C'est ça. J'adore ces aspects historiques-là. À un moment, ils vont dans une banque abandonnée à Montréal. Alors, il y a quelque chose dans la pratique de l'urbex, il y a des codes. Les gens ne vont jamais dire, ne vont jamais donner l'adresse.
Of course not.
Où,
mais non.
C'est où est placé le site.
C'est comme une chasse au trésor, mais aussi, en même temps, j'imagine que c'est pour se protéger. Là.
C'est pour se protéger. Ouais. Déjà, eux, parce que, encore une fois, mes amis, c'est illégal. Mais aussi, protéger l'endroit. Parce que souvent, ces endroits-là sont en ruine et puis ils sont...
Ça va être gâché par le tourisme.
Voilà, genre. C'est ça. Ils sont un peu délabrés. Il y a beaucoup de graffiti. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre certains objets.
Aller faire du vandalisme aussi encore plus, exactement, même si c'est déjà délabré.
C'est exactement ce mot-là que je cherchais. Et puis, en fait, ils vont dans cette banque-là à Montréal. Et puis... Donc, ils se retrouvent devant un escalier, franchement, qui date, d'après ce qu'ils disent, date de 1820, quelque chose.
Ça doit être dangereux aussi, parce que les planchers peuvent défoncer. Ouais. Tu peux, on ne recommande pas ça pantoute, encore une fois.
Ouais. Et puis, c'est vrai, c'est clair. Mais tu regardes la photo de cet escalier qui est en fer forgé et qui est en cuivre avec de l'or 22 carats.
Non.
Ben non.
Pourri.
Mais ils étaient fous.
Laissé à l'abandon.
Ils sont fous. Non, mais là, on veut l'adresse. On va aller chercher le 22 carats.
Ah ben, soudainement, on change d'avis.
On va payer mes études avec l'escalier, moi, là.
Et tu vois, c'est... Et puis, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment nice. T'as cette photo-là. Les photos sont vraiment très belles. Hein. Moi, je suis pas très bon photographe. Je pense pas que je pourrais prendre d'aussi bonnes photos.
Mais tu
photos.
Peux apprécier quand même aussi.
Ouais, c'est ça.
Ben oui. Puis le fait de le vivre aussi, c'est... J'imagine que c'est pas... Oui, il y a les photos après sur le gramme, mais il y a aussi l'intérêt de le vivre toi-même puis d'explorer un peu. Ouais, la chienne est peu là.
Quelle ambiance.
C'est ça.
Qui, là.
C'est ça. Et puis, c'est ça. Moi, tout de suite, ça m'a fait. Tu vois, on reprend le médium, tu vois, du papier qu'on perd, la boîte aux lettres qu'on
qu'on oublie un peu.
On oublie, c'est ça. Mais là, on oublie, la banque ferme, elle oublie qu'elle a laissé un escalier avec de l'or dessus.
Il y a bien juste une banque pour oublier ça. Hein. C'est Ah mon Dieu, c'est...
Puis c'est vraiment, tu vois, c'est d'époque. Donc, tu sais, à l'époque, il y avait quand même un... souci du détail, tu sais, tu vois
les matières qu'on utilisait, c'était pas du plastique, c'est pas du PVC, c'est pas du plexi, tu sais, c'était juste que des matières brutes que aujourd'hui ça coûte tellement cher faire ça.
Tu sais, c'est du fer, c'est du cuivre, c'est de l'or, puis tu sais, avec tout un tas de détails là, je sais plus c'est quoi le style, mais bon.
J'imagine que c'est un peu plus en mode art déco aussi.
C'est art déco, c'est exactement ça. C'est art déco.
Je l'ai pas vu, mais j'imagine que
c'est art déco. C'est vraiment art déco. Et puis, y a plein d'endroits qui sont vraiment qui sont très connus à Montréal. Donc, le silo numéro 5, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Vous connaissez. Au Vieux-Port.
C'est-tu proche de la Farine Five Roses?
Ouais, c'est ça.
Oui,
ben,
voilà.
Quand tu es sur le Vieux-Port, tu ne peux pas le rater. Là.
J'ai une question. C'est quoi cette cabane? Il y a une cabane en
Alors,
haut de ça.
Alors, on ne parle pas de la même chose.
C'est ça, pas la même chose.
Toi, tu parles de celui qui est à Saint-Henri.
Voilà, OK.
OK, donc j'ai l'histoire un petit peu de ce
OK, on bifurque, mais je veux pas...
Ouais, okay. C'est ça. Alors ça, à la base, je pense qu'eux, ils faisaient du malt pour...
Non, on parle du silo ou de la cabane?
On parle de la cabane.
OK, parfait.
OK, on est sur la cabane. Je pense qu'eux,
sa cabane.
Ouais, ils faisaient du malt pendant très longtemps. Je sais plus c'est quoi le nom de l'entreprise.
Ça va être Molson ou une affaire de même qui ont comme déménagé?
Possible. Et en fait, donc ça a été abandonné. Donc, ça a été vraiment, y a plein, on peut retrouver plein de photos de urbexeurs qui sont à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils savaient.
J'adore.
Il y a vraiment tout un tas de codes, ils ont tous des noms, et puis il y a des gens qui sont vraiment très connus. Il y a peut-être les Banksy de l'urbex, tu vois, un peu.
Yeah.
Et puis, en fait, un jour, d'un coup, on a vu cette maison au top. Un gars qui
est apparu, genre.
Ouais, elle est juste apparue.
Non.
Et j'ai fait tellement de recherches sur cette maison-là parce que j'ai habité à Saint-Henri pendant.
Fait que t'as voyé tout le temps, t'étais comme c'est quoi ça? Le mystère.
J'étais là, mais c'est quoi qui? Et personne ne sait.
Mais non.
Et vous savez quoi? Il y a des plantes sur les fenêtres de la maison qui a été mise au top. Donc en fait, c'est un silo.
Ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait quelques années, non?
Franchement, ça fait très longtemps parce que moi, ça fait. Ouais, ça fait.
Est-ce qu'elle est entretenue?
Elle est entretenue.
Non!
Il y a quelqu'un qui vit là?
Mais non, mais il va l'entretenir, c'est clair qu'il vit
non,
pas
je
là.
Sais pas. Je sais pas, mais tu vois, il y a. Tu sais, c'est un grand silo, et puis il y a au-dessus, donc t'as cette maison-là qui est en rose avec des volets verts.
Oui, c'est très voyant, elle est très voyant. Ouais.
Ouais. Et puis sur les rebords des fenêtres, il y a des bacs à fleurs.
Et fait qu'il y a quelqu'un qui les entretient.
Il y a quelqu'un qui est là, qui vient les arroser, wow. qui vient.
Non, mais c'est Banksy, il faut trouver Banksy. Hein.
C'est le truc le plus proche de Scooby-Doo que j'ai entendu de ma vie.
Oh my God!
Voilà, donc ça, c'est
puis la ville n'a pas essayé de le take down aussi, tu sais, parce que la ville a répété, c'est dangereux, ça va tomber sa tête à quelqu'un,
ouais. Même
n'importe
ouais. Non, pour l'instant, il y a tout un tas d'endroits. Je pense que cet endroit-là appartient à la ville.
Oh, c'est peut-être la ville elle-même.
Ouais, peut-être.
C'est Valérie Plante qui nous a fait une petite cacheterie. Coucou!
C'est son
échec, tu la vois monter l'échec.
Je vais gagner les autres élections aussi. Je vais mettre une petite cabane surprise.
Donc, ça, c'est pour cet endroit-là, Saint-Henri, okay. qui est vraiment. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a une part de mystère dans ces endroits-là. Il y a des choses qui se font. Ce qui fait que, voilà, l'endroit est en ruine, mais quand même, on renouvelle un peu.
La vie revient un peu. Juste le fait que les gens observent sans nécessairement altérer aussi les endroits. Juste le fait qu'il y ait des observateurs, je pense que la vie revient un petit peu, tu sais.
Ouais, c'est ça, exactement. Ah. Et l'autre le plus gros, et je vais terminer avec ça, c'est
le silo, c'est ça?
C'est le silo numéro 5, ça s'appelle. Ça, c'est la première construction, c'est en 1903. Et saviez-vous que grâce à ce silo-là, donc c'était un silo, des silos, pour entreposer du grain. Et grâce à ces silos-là, Montréal était le premier port au monde, en Amérique du Nord, pardon, excuse-moi, d'exportation de grains. Ah.
La plus grande, le plus gros, genre.
C'est avec ces silos-là.
Est-ce que c'était Five Roses? Ou c'était une autre compagnie, on ne sait pas.
Je pense que c'était une autre compagnie. Je n'ai pas trouvé le nom de la compagnie.
OK.
J'ai trouvé...
Mais 1903, quand
ouais,
même.
Ça date de 1903. Il y a eu plusieurs constructions agrandissements consécutifs.
Ouais.
Mais vraiment, la première, c'est 1903. Ouais.
C'est fou, fait que ça a apporté du travail.
Ça a vraiment apporté beaucoup de travail. Et donc, là, franchement, cet endroit-là...
C'est énorme.
C'est énorme. Cet endroit-là, je pense que c'est le plus connu...
C'est iconique, là.
Ouais, ah, oui. De Montréal. Il y a des films, il y a Transformers qui a été fait là-dedans. Là.
Ah ouais?
Ouais.
Je les écoute plus, je vois pas un honneur.
Ouais, moi aussi. J'ai arrêté au 12.
Comme les Fast and Furious. On est rendu au combien de 15? Ok, c'est bon, Vin Diesel, vas-y.
En tout cas, il y a plein de choses qui se font là-bas. Il y a plein de films, il y a plein de... Et donc, il y a aussi des urbexeurs qui vont vraiment beaucoup dans ces endroits-là. Et ouais, c'est ça... C'est ça, ma petite survol de l'urbex.
Quel phénomène intéressant.
Ouais, c'est super intéressant. Puis après, tu vas sur d'autres sites.
Est-ce que
tu
as des sites à nous recommander? Là, on a Uber. Uber.
Ouais, il y a
UberX.
Urbex.
Urbex. On dit Uber. Urbex Montréal. Est-ce qu'il y avait d'autres sites aussi que tu pourrais nous recommander?
Ouais, il y a un site. Mais là, c'est plus mondiaux. Et puis, tu as des endroits au Québec aussi. Ça s'appelle Urbex Playground, tout simplement.
Urbex
Playground.
Playground, ok. Playground, ouais. On va mettre ça en description pour nos auditeurs.
Ouais, et puis là-dessus, il y a vraiment des endroits cool, même des villages complètement abandonnés à des moments, à des endroits.
Ou that's spooky, okay, wow. Parce qu'il y a aussi une... Tu sais, oui, dans la ville, quand t'es proche dans la ville, je pense que ça peut être spooky, mais tu sais, quand tu t'éloignes de la ville, puis tu vas voir...
Ouais.
Tu sais, je sais qu'il y a des gens aussi qui vont voir, et ne faites pas ça encore, des maisons privées abandonnées.
Ouais.
Ça, je pense qu'il y a aussi... Tu sais, c'est pas un truc industriel, c'est pas une compagnie qui a abandonné ça. Il y a eu de la vie humaine là-dedans. Puis je pense qu'il y a aussi, dans ces conditions-là, il y a une facette un peu plus... je veux pas dire nostalgique, triste ou...
Personnel,
qui peut être assez sentimental. Tu vois un peu les débris de la vie de quelqu'un qui n'est plus là. On sait pas si la personne est encore en vie ou décédée, tu sais. Je trouve qu'il y a aussi... Il y a comme différentes branches d'exploration urbaine
ouais,
aussi. Oui,
c'est vrai. C'est vrai.
Je pense que l'exploration urbaine en mode silo m'attire plus que ouais. le potentiel vraiment spooky que d'aller dans des maisons abandonnées. Là, on s'entend.
Ouais. Maison abandonnée, parce que je me dis c'est une histoire que
c'est
tu
vrai.
Découvres et une histoire tellement humaine.
Moi, j'ai comme pas le goût de savoir les fantômes des autres. Il y a un truc par contre qui m'intéresse, c'est de voir les vieux packaging. Tu sais, vraiment, si t'arrives dans un endroit qui a été conservé pendant longtemps, tu sais, d'aller voir les vieux graphic design des boîtes de céréales, admettons. Ça m'intéresse. Je veux pas voir la vieille bouffe évaporée pourrie depuis le temps, mais comme ça serait peut-être un élément qui m'intéresserait, mais je trouve ça tellement triste. Même si les gens sont partis complètement heureux puis ont déménagé puis la maison est juste restée là, ouverte, vacante, il y a toujours une espèce de film d'horreur.
Ouais, influencé dans notre imaginaire.
Mais oui. Oh my God. Ah, j'ai un flashback. J'avais entendu parler de la cafétéria du centre Eaton.
OK.
Et s'il vous plaît, si quelqu'un sait de quoi je parle et c'est totalement faux, qu'est-ce que je suis en train de dire, ne vous gênez pas pour me dire, mais il me semble que je pense que ça date. J'avais vu cette histoire-là, je pense que c'était sur un blog de Montréal qui n'existe plus aujourd'hui. Et ça parlait, en fait, il y avait même des photos. C'est comme une espèce d'étage dans le building qui apparemment est aujourd'hui abandonné et inaccessible, qu'ils n'utilisent plus dans le building du centre Eaton ou à côté, qui était la cafétéria et qui était totalement trop stylée.
Okay.
Genre en mode rétro, avec des portes en arche. Puis tu sais, c'était comme tu disais, Nathan, tu sais, ils utilisaient beaucoup de matériel qu'on considère aujourd'hui encore plus noble.
Mm-hmm.
Et c'était vraiment... pardon, ça me faisait beaucoup penser aux images que j'ai vues à les salles de réception dans des bateaux de croisière OG. Pas en mode Titanic, mais un peu après.
Ouais,
c'est en mode hors déco aussi.
Mm-hmm.
Puis apparemment, c'est totalement abandonné, ça. Puis si tu réussis à te squeezer à l'intérieur, apparemment, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est vraiment beau.
Nice.
En mode Great Gatsby, un peu, là.
Ouais.
On réitère qu'on n'est pas supposé faire ça, c'est illégal.
Oui, c'est ça. Voilà, je ne vous encourage pas. Je vais essayer d'aller trouver des photos, voir de ça, voir si on peut mettre ça en description, sur notre bel Instagram. Nathaniel, toi, est-ce que tu as déjà fait de l'exploration urbaine?
Je n'ai jamais fait d'exploration urbaine.
C'est bien, c'est illégal.
Ouais. Bonne réponse.
Mais il y a un truc aussi, je pense, avant, pour clore ta chronique, Carl. L'hiver, là.
Ouais.
ça doit être chiant en maudit. Tu sais, l'été, pas de problème. Il y a des petits oiseaux, il y a des petites plantes, tout est beau, boum, boum, boum. Mais pourquoi faire ça l'hiver?
Ah, écoute, ben, et,
peut-être... être un explorateur, je ferais comme, ben non, genre, je vais attendre à l'été. Tu sais, je me demande s'il y a vraiment comme un achalandage saisonnier.
La saison. La ouais. Saison. Je suis sûr que
c'est... Mais sûr que oui.
C'est sûr que oui. Je suis certain.
Ah, il y a un autre truc. Phénomène que j'ai remarqué sur TikTok. Qui est encore plus dangereux. Je pense pas qu'on puisse. Je pense que c'est une branche, dans les branches les plus dangereuses de l'exploration urbaine, c'est des jeunes, je dis les jeunes du haut de mes 33 ans, mais comme, qui ont, en fait, et ça, je condamne ça à 100%, des jeunes qui ont commencé à monter des tours en construction pour se prendre en photo, puis ouais. Genre, l'espèce de deal, c'est comme se pendre à une main là-dessus. Ah, ça, je m'excuse, mais.
Oh mon Dieu, ouais.
C'est apparemment que pour le gramme, là.
Ouais. Incroyable.
Ça, je trouve, c'est vraiment en mode Black Mirror.
Ouais.
Et
ouais.
Je vous conseille fortement, si vous avez des amis qui pratiquent ça, de leur parler, ouais. De les asseoir, puis de leur demander si ça va bien.
Ouais.
Parce que je pense qu'il n'y a pas de prix aussi grand que ta vie juste pour une photo Instagram. Tu sais.
Ouais. Non, c'est clair.
Yeah. Je pense que je tenais vraiment à le mentionner, parce que je pense que ça fait partie aussi d'une branche un peu plus lugubre de l'exploration urbaine, mais qui est comme lié à ça aussi.
C'est sûr. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui font du parkour, des trucs comme ça.
C'est ça. Un peu en mode parkour, mais c'est un trend extrêmement dangereux et que je déconseille fortement à tout le monde.
Il y a un humoriste français du nom de Roman Frésinette qui avait un jour dit « C'est pas parce que quelque chose est impressionnant que c'est intelligent. »
Ah, nice.
Toujours une bonne quote, Nathaniel. Merci. C'est pas parce que c'est impressionnant que c'est intelligent.
Et oui.
Yo, je vais essayer de me rappeler ça puis dire ça à mes dumb friends Camille. Merci beaucoup, Carl, pour ta belle chronique.
Merci à vous.
Puis je suis impressionné que tu te rappelles des dates. Moi, j'adore.
Ouais.
1903. Yes, let's go.
Ah, ouais. Ah, j'aime ça, les dates.
Nathaniel, qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite?
Je vous réserve une chronique intitulée « Poser un lapin à ses pleurs ». L'Orchestre Philharmonique jouait le samedi 14 janvier 2024 un spectacle intitulé « Bugs Bunny at the Symphony » à la salle Wilfred Pelletier sous la direction de George Doherty, qui est à l'origine de ce spectacle. Il s'était engagé, selon ses dires, à le faire pour 2 ans, il y a de cela 30 ans. Et durant le spectacle, des épisodes de Bugs Bunny à thématique musique classique jouent sur un écran au-dessus de l'orchestre qui assure la production sonore, la musique. On voit notamment le lapin de Séville et Bugs Bunny, chef d'orchestre, ainsi que d'autres. En chemin, moi, qui viens de la Rive-Nord, mon père et moi avons pris le métro une bonne trentaine de minutes à peu près avant d'arriver. Et en s'assoyant, on observait nos alentours et on a remarqué sur un siège devant nous, il y avait... une espèce de masse informe noire.
Wow.
Fait qu'on a espéré que c'était un gant, puis on a passé à autre chose. Et là, les stations passaient, le métro se remplissait, les places se prenaient, tout allait comme d'habitude, sauf une chose. Un banc. Un gant. Vide. Mon père me le fit remarquer d'un regard, et l'air taquin, il regardait les passagers entrant dans le train. Ceux-ci regardaient autour d'eux, remarquaient le banc libre, puis... restait debout. Un petit gant noir d'automne, là. C'est pas imposant. Mais il reste debout. Et le métro continue. D'autres passagers. Personne! Pas une seule ose s'asseoir. Deux bums intimidants, un homme d'affaires, un étudiant, tous debout. Pied de nez du gant qui leur tire la langue de son pose-fesse. Et ainsi, on descend vers Berry-UQAM s'enthousiasmant à chaque fois qu'un nouveau entre, puis rigolant discrètement quand il abandonne ses rêves de siège pour ce petit gant qui va pas de main morte, décidément. Mais est-ce qu'on n'est pas comme tous ces passagers qui s'empêchent plein d'actions par peur? Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que les autres vont en penser? De quoi j'aurai l'air? C'est pas de mon âge, ces affaires-là. Plein de limitations qu'on se met par peur du regard des autres. Ah, OK, bien entendu, c'est important de s'en soucier un peu du regard des autres. Sinon, il y a du monde qui se promènerait tout nu sur Saint-Denis ou il y a du monde qui serait fièrement raciste. Puis honnêtement, je pense pas que c'est une bonne évolution des mentalités. T'sais. En fait... le regard des autres a une place à la table des décisions. Ça devrait simplement pas être une dictature. On devrait considérer ce qu'il y a à nous faire remarquer, puis ensuite nous choisir qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on agit ou pas. Le regard des autres devrait influencer, pas commander. Bref, avec tout ça, mine de rien, on est arrivé, place des Arts, salle Wilfred Pelletier, Philharmonic, Bugs Bunny, vous suivez? Le chef d'orchestre, M. Doherty, prononce quelques phrases dans un français approximatif, faisant visiblement beaucoup d'efforts pour s'exprimer dans la langue de la place, avant de finalement retourner à l'anglais où il est confortable. Le spectacle était en anglais, il n'y a pas de problème là. Moi, j'ai franchement apprécié qu'ils fassent des efforts pour s'exprimer en français. Ça montrait un souci du public local, c'était vraiment cool. Durant le concert, on voit le méchant petit canard se transformer en avion de la Deuxième Guerre mondiale, le Roadrunner, tu sais, celui qui fait mip mip, qui taquine le pauvre coyote qui se prend enclume après pétard après camion de livraison. À un moment, il a la brillante idée de faire du saut à l'élastique. C'est du bungee en anglais. Ce qui est bien sûr une folle idée pour essayer d'attraper le volatile qui se volatilise. Ça se retourne contre lui et son visage résigné explique tout. Et bien sûr, il y a ce bon vieux Bugs Bunny futé qui trouve mille moyens d'échapper et de s'amuser face au chasseur Elmer Fudd. Ah. Je regarde prendre place les centaines de spectateurs qui n'ont pas laissé leur peur du jugement des autres les empêcher d'apprécier un dessin animé dit pour enfants, avec des gros guillemets là. Quelle idée de s'empêcher d'écouter des histoires sous prétexte que le public cible principal n'y a pas la même ancienneté que toi. Un dessin animé toutou même combat. Ce qui apporte une joie si innocente à sa place dans nos vies, ça aurait été dit. Et d'ailleurs, le gars dans le métro, là, finalement, quelqu'un l'a enlevé. C'était un monsieur grisonnant dans cinquantaine. Il s'est avancé. Il l'a regardé longuement. Il l'a enlevé d'une pichenote pour laisser la place à sa fille. Comme quoi l'amour, peu importe sa forme, donne envie d'être brave face à ses peurs.
Oh là là! Mais tu nous as apporté dans plein d'univers, là, Nathanaël. Ouais. Merci encore une fois. Non, mais t'es en feu. Deux chroniques, là.
Yeah!
Tabarouette, tu me donnes du stock, là.
Ah, oh, j'avais hâte.
Super cool, man.
Moi, il y avait un côté de moi, là, tu sais, quand t'as commencé à parler de la masse noire sur le banc, là. Moi, j'étais comme, c'est sûr, c'est un rat. C'est sûr, c'est un rat! À chaque fois que tu parlais du gars blanc, je m'imaginais un rock. Personne ne voulait toucher seulement. J'avoue que c'est pas aussi fréquent qu'à New York, mais ça aurait pu quand même être un rat.
Ah, mais avoir la réaction des gens, c'était un rat, mais ah, ouais. Difforme et tu sais, qui mais, lance des flammes.
Je trouve que le comportement que tu décris est très québécois.
Ah, ouais.
Parce que, je sais pas, tu sais, dans les autres métros que j'ai eu la chance d'essayer à travers mes voyages, admettons, Chine, France. Mais c'est pas ma soeur, en fait, Chine France. Mais les gens, ils ont vraiment pas le même comportement. Même les Français, oh, ouais. Aussi, souvent, ils disent... Dans les premières choses qu'ils remarquent quand ils arrivent ici, c'est que les gens font la file pour prendre la bus, tu sais.
Ah oui.
J'ai dit la bus, merci, je viens de Québec. Mais alors... mais je trouve qu'il y a... Je sais pas si c'est une gêne ou, comme tu dis, une peur de déranger les autres ou de, tu sais... Puis même moi, quand j'arrive dans le métro, genre, je sais pas, il y a un emballage de quelque chose, je peux pas m'asseoir, ben je vais... littéralement essayer toutes mes autres options avant de toucher à quelque chose d'autre. C'est peut-être du dédain aussi parce que ça peut être sale ou,
ben oui.
Ou peut-être la peur aussi de devoir interagir avec quelqu'un d'autre parce que mon Dieu, que des fois, on aime ça avoir notre bulle dans le métro. Oh, fait oui. Que si tu prends le gap, peut-être que quelqu'un va te parler, t'es comme « Ah, c'est non, pas encore. » Mais je trouve qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans, d'entendu souvent dans les métros puis même dans les autobus ici, c'est que je sais pas, puis j'apprécie, puis des fois, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a comme pas vraiment le réflexe de se parler entre nous autres, tu sais. On n'a pas le réflexe de dire bonjour à notre voisin de siège.
Ouais, ben
des fois, c'est bien, des fois, c'est comme un peu triste.
Ben, c'est ça, il y a une volonté de pas déranger, mais on assume qu'on dérange.
Ouais, on assume qu'on dérange, tu sais, il y a comme
parfois, c'est vrai.
De développer, ouais.
Il y a eu des fois où est-ce que j'ai regardé quelqu'un entrer dans le bus, puis j'ai fait tout mon possible pour lui faire comprendre que je voulais pas qu'il s'assoie à côté de moi puis qu'il me parle parce que j'étais pas dans cet état-là. Mais...
Ouais.
Puis le Bugs Bunny, l'épisode de Bugs Bunny que tu décrivais, là, est-ce que c'est le fameux épisode en mode Olympe avec l'opéra, là, puis à un moment donné, Bugs Bunny, il est comme, il y a un casque, puis là, il est en jupe, là.
Tout. C'était c'est plusieurs ça? Épisodes, c'est un spectacle de comme une heure et demie où est-ce qu'il montre plein de différents dessins animés et ça en fait partie. Il y a aussi un où est-ce que
légendaire comme épisode. Je sais pas si vous vous rappelez de celui dont je parle. À Manny, il est comme sur une espèce de cheval vraiment dodu.
Oui.
Puis là, il se promène là-dessus. Puis pour vrai, moi, quand j'étais petite, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement donné le goût de dessiner des monsieur et madame lapin, là. C'est un peu en mode gender fluid lapin, là.
Ouais.
Puis j'étais comme, OK, c'est sick, là. C'était tellement le fun. Ça m'a vraiment marqué beaucoup visuellement, cet épisode-là.
Ouais.
Ah! Puis, est-ce que tu sais s'il va y avoir d'autres représentations?
Je suis sûr et certain qu'il y en aura. Rappelle-nous, je vais m'arranger pour mettre dans la description une manière de retrouver les prochains. Parce que quand même, le gars, ça fait 30 ans qu'il roule cet orchestre-là et qu'il se promène à travers le monde.
Et le nom de l'orchestre?
Hein?
Le nom de l'orchestre?
Ben dans le fond, l'orchestre, c'est la Philharmonique de Montréal. Donc, c'est un orchestre qui reste à Montréal, mais le gars, il se promène avec son spectacle.
Un peu comme le Cirque du Soleil, genre.
OK, je sais pas.
Mais je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez voir à la fois Film Harmonique et l'affaire de Bugs Bunny. Parce que la Film Harmonique, c'est vraiment du très, 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 de la très bonne musique. Ils font très bien ça.
C'est tout live,
c'est des
en
passionnés
plus.
Par les films, la musique de films, qui est d'ailleurs très classique.
Est-ce qu'ils font aussi, c'est eux qui font les représentations de Star Wars, Seigneur des Anneaux aussi, c'est pendant l'été, tout ça. Oh my God, j'ai toujours voulu aller là.
C'est trippant. Vas-y.
Ça, puis les Candlelight aussi, là. Moi, j'ai été à une représentation de Candlelight. C'est, dans le fond, c'est une orchestre live devant toi, éclairée aux bougies.
Cool.
Dans plusieurs, ils font souvent des salles différentes. Moi, j'ai été dans une église. En fait, souvent, je pensais dans des églises. Puis l'ambiance est juste phénoménale. L'acoustique est géniale. Puis là, t'as des petites chandelles, là, ce genre d'aide parfaite. Puis j'ai été voir un spécial Hans Zimmer.
Ouais.
Wow.
Ils font aussi des spéciales animés. Je sais qu'ils ont fait récemment Ghibli.
OK.
Les soundtracks de Ghibli. Ils ont fait aussi Jazz, Kill Bill. Plein d'affaires comme ça, vraiment intéressantes. Puis pour vrai, je vous le conseille fortement. C'est un peu dans le même concept.
Mais là, il y a un concept.
Oui, voilà.
Cool.
Mais sur le film, comment ça s'appelle? Film harmonique?
Film harmonique, oui. Okay. Dans le fond, c'est harmonique, puis film, F-I-L-M, juste avant.
Kind of makes sense.
Oui, c'est cool. Moi, j'ai lu ça, je suis genre, oh my God, oui, ça a tellement de sens.
Ah, mais j'adore ton écriture aussi, je dois le souligner encore aussi.
Ouais,
là,
merci.
Le petit côté avec le petit papa qui donne la pichinotte au gant, ça, c'est exactement ça. T'es comme, ah, c'est un vieux gant, le paille. Pour donner la place à sa petite fille.
Oui.
C'est full touchant.
C'est super cute. On regardait ça, t'es comme,
Est-ce que ton père aime beaucoup faire des sorties culturelles comme ça? Est-ce que
absolument.
Vous allez...
bon,
on va apporter ton père dans des sorties
vient
culturelles.
De lui.
Ah oui?
Ah oui, lui, il adore sortir. Nous, ce qu'il nous donne à Noël, c'est des spectacles. D'ailleurs, ce spectacle-là, c'était lui qui me l'a donné à Noël avec Nathaniel, tu as deux places, je suis la deuxième place.
J'adore. Il s'est donné un cadeau à lui-même aussi en même temps.
Et c'est sa stratégie parce que ça fait que tu passes du temps avec ton enfant, tu passes du temps de qualité. C'est une sortie.
Good dad.
Est allé avant aller manger à la Centrale. Mm-hmm. C'est un assemblement plein de restos différents. C'est super bon. C'était
un peu comme le Time Out au Centre-Eaton, genre?
J'en ai aucune idée.
OK.
Ouais. Même genre.
Mais ce que Nathalie soulève, là, ça me fait un peu penser, Carl, à ta chronique de la semaine passée.
Mm-hmm.
Parce que, Carl, je sais pas si Nathalie a tout le temps d'écouter l'épisode de la semaine passée. Carl relevait un peu des habitudes, pas qu'il fallait faire des efforts pour sortir, mais un peu comment qu'on consomme notre culture, tu sais, c'est de sortir. Fait que quand t'as des parents comme le daddy de Nathaniel...
Appelez papa, là.
Oui, mais c'est donc comme le daddy de Nathaniel. Fait, tu sais, j'imagine que d'avoir une famille ou des parents ou des proches...
Ça aide.
Ah, oh, ça aide extraordinairement.
Bien sûr.
Ben là, tu me fais penser, c'est ça que je vais faire pour mon neveu puis ma nièce quand ils vont être plus vieux. Là.
Et c'est un si beau cadeau parce que c'est le cadeau d'être avec l'autre.
C'est une expérience.
C'est une excuse. Le spectacle est une excuse pour aller voir quelque chose. Moi, je me souviens, j'ai un cousin qui m'a sorti pour aller voir le Juste pour rire. C'est un cousin qui était beaucoup plus vieux que moi, qui ne me connaissait pas plus qu'il faut. JP, il s'appelle. Puis il voulait reprendre contact avec sa famille, fait qu'il est allé proposer, il est allé voir mon frère, puis il était comme, OK, qu'est-ce que t'aimes? Il a figuré, OK, t'aimes la musique métal, on va aller voir un concert de métal ensemble.
Wow.
Puis moi, j'aimais ça l'humour, fait qu'il m'a dit, OK, on va aller voir Juste pour rire ensemble. Puis je me souviens d'être allé voir ça, d'aller regarder des spectacles de rue, d'être allé au Chocolat Favori après. C'est juste une belle sortie. C'est d'offrir son temps.
100%. D'offrir son temps, d'offrir des lettres.
Et
tu sais?
Et oui, toutes!
Full circle!
Malade!
Les gars, avez-vous quelque chose de prévu en fin de semaine? Ou est-ce que vous avez fait quelque chose? Je pense que je vais prendre l'habitude, comme en fin d'émission, de vous demander vos sorties culturelles. Si vous n'en avez pas, c'est bien correct. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine passée? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout.
Moi, cette fin de semaine, pas grand-chose. Non.
Ça arrive. C'est l'hiver, pour vrai. Comment ça se dit la semaine passée? C'est l'hiver.
J'essaie de réfléchir, mais il n'y a rien de prévu.
Oui, il y a le Tavern Tour qui va commencer bientôt en février. Savez-vous c'est quoi?
C'est quoi?
Le Tavern Tour. Dans le fond, c'est comme... Pour vrai, je pense que c'est dans les événements musicaux, les très trippants, je trouve, pendant cette saison, qui est considérée comme étant un peu plus morte, tu sais.
Mm-hmm.
Puis le concept, c'est... Moi, j'appelle ça comme le triangle des Bermudes, mais c'est un petit peu à l'extérieur aussi de ça. C'est vraiment comme, mettons, qu'il y a des Brumes Roquettes, Esco. Il y a le Vert Bouteille aussi. Il y a comme plein de salles qui vont avoir dans la même semaine avec le flag du Tavern Tour. C'est comme le concept de faire des shows dans des tavernes, c'est dans des bars aussi.
Okay.
Il y a plein d'artistes émergents qui sont en line-up là-dessus. Il y a entre autres Virginie B. Je sais qu'il y a les Shirley aussi. Il y en a plein d'autres. Je vous invite à aller voir la programmation. Je vais mettre aussi le lien de la page Instagram en description pour que vous puissiez aller voir. Je pense que ça commence début février.
Cool.
Et c'est en particulier, en fait, dans le secteur du plateau Mont-Royal, si j'ai bien compris. Puis c'est vraiment le fun parce que des fois, tu as comme 2-3 shows dans la même soirée. Fait que si t'es tannée, tu te promènes, tu fais ton petit tour dans le triangle des Bermudes puis tout. Là. Ça, c'est vraiment trippant. Ça, j'ai hâte à ça. Ça va être le fun.
Jeudi, il y a la journée audio à Radio-Canada où est-ce qu'ils ouvrent leurs portes pour faire des conférences.
Alors, audio, c'est... Tu peux nous expliquer c'est quoi?
Audio, dans le fond, audio, c'est la section radio de Radio-Canada, mais c'est ceux qui font les balados notamment. Donc, fans de balados, gens qui aiment avoir des podcasts, ce genre de choses-là, allez-y, mon Dieu, c'est porte ouverte, c'est ouvert. Je pense qu'il y a une inscription pour le dîner, c'est tout.
Est-ce que c'est pour les gens en particulier qui s'intéressent à faire du balado ou qui sont comme qui en consomment beaucoup?
C'est surtout pour les gens qui s'intéressent à en faire. Donc, c'est des conférences avec des gens qui font des balados. Mais allez voir la programmation pour voir s'il n'y aurait pas un balado que vous écoutez et que vous auriez la chance d'aller rencontrer quelqu'un qui le fait, qui travaille dessus, qui le crée. On va voir vraiment les créateurs des balados, les gens derrière ça.
OK.
Ça va être très intéressant. Et ce dimanche, c'est la deuxième partie du stage Bio-Yo. Je fais du karaté dans vie. Puis Bio-Yo, c'est un enchaînement deux par deux qui a été développé, pas entièrement, mais en particulier par ma professeure de karaté. Elle est
quand
passionnée
tu dis que
de ça.
C'est Bio-Yo, c'est un type d'entraînement aussi?
Oh mon Dieu.
Excusez.
T'as combien de temps?
Il nous reste exactement 15 minutes. Let's
malade.
Go.
Dans le fond, au karaté, le karaté que je fais, c'est un karaté traditionnel. Donc, on apprend un enchaînement de mouvements. Ça s'apparente un petit peu à une certaine danse, mais c'est un enchaînement de mouvements. Cet enchaînement-là se déconstruit en plusieurs, mettons, c'est un sandwich, là. Ben, tu peux faire juste la tranche de jambon.
Du pickle. Okay.
Ben, tu peux prendre le pickle, mais il est en deux par deux. Ça s'appelle un bunkai.
En deux par deux, genre tu le pratiques avec quelqu'un d'autre.
Tu le pratiques avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une personne qui attaque, une personne qui se défend. La personne qui se défend fait le kata.
Ah!
Ouais. Application en deux par deux des méthodes. Okay. Mais le bunkai, ce qui est, mettons, ta tranche de jambon, ben c'est pas super réaliste. Fait qu'il y a du monde qui se sont dit, hey, ce serait plus intéressant de
qu'est-ce
faire...
Qu'est-ce que tu veux dire par réaliste?
Réaliste c'est... dans le sens... Tu sais, mettons...
C'est des mouvements d'animé, genre?
Non, genre, la personne qui attaque, est conne. Hein? La personne qui attaque, elle va faire un coup, puis elle va se manger l'autre coup. Elle va pas le bloquer.
Ah, je comprends. Mais... C'est comme des scénarios un peu probables.
Ben, c'est pas ça qui va arriver. Fait qu'il y a du monde qui se sont dit, OK, nous, on va faire des Rensuku Komite. Le Rensuku Komite, c'est des bunkai mis ensemble. Donc, c'est ton kata au complet, mais fait en deux par deux.
OK, c'est comme un remix de kata.
Genre, en deux par deux. Fait que t'es l'un avec l'autre, c'est vraiment avec que tu le fais. Tu le fais pas dans le but de frapper la personne, mais je sais pas un karaté où est-ce que ton but c'est de péter des
gueules. C'est pas une chorégraphie synchronisée, genre. C'est
ressemble un peu, mais il y a quand même l'aspect, tu sais, si tu le bloques pas, tu vas le manger dans la face. Fait que tu t'arranges pour le bloquer.
Il faut quand même que tu sois à un certain niveau aussi.
Ah, il faut que tu sois là.
OK, fait que moi, je peux pas me pointer au stage. Je veux apprendre. Non, madame, tu vas avoir des barres d'en face.
Okay. Puis Rensuku Komite, c'est la chose qu'on apprend, mais le Bio-Yo que je m'en vais faire, c'est encore plus loin. Le Bio-Yo, c'est une autre variation du Rensuku Komite, mais faite de façon plus intéressante, mais plus complexe aussi en termes de mouvement. Il faut que tu sois plus avancé pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis pour être capable de faire le bon mouvement avec ton bras.
Nathaniel, tu nous avais pas dit que tu étais un ninja?
Je fais du karaté depuis 15 ans maintenant.
Damn,
et ça fait plusieurs années qu'elle a inventé les bio-yo. Et c'est tellement trippant parce que tu te rassembles avec toutes les gens qui aiment le plus le karaté. Il y a une passion qui est là et il y a une camaraderie qui se développe qui est extraordinaire.
Ils sont pas juste là pour un projet parascolaire.
Ah mon Dieu, non.
OK.
Non, c'est des
geeks du karaté.
C'est des grands fans, et pour la plupart, c'est des parents qui ont commencé avec leur enfant. Soit l'enfant a lâché, puis les parents ont continué, ou ils font tous en famille. Moi, je fais ça avec toute ma famille.
Okay.
Et oui, on est tous
la famille
les quatre.
De cool.
C'est malade, j'adore ma famille. J'adore.
OK, mais... fait qu'il faut vraiment pas se battre avec ta famille. Il faut pas avoir du avec ta famille.
Attention.
Genre même le bébé capable de se défendre.
On trouve toujours ça drôle parce qu'on fait des...
Vous êtes donc pas les Invincibles, dans le fond.
Ouais, on est les Invincibles.
Ah, c'est vrai, oui.
Exactement.
Oh my God. Incredibles. J'adore.
Mais oui, c'est drôle parce que parfois, il y a une fête de Noël, tu sais, pour toute l'école de karaté, puis on faisait des blagues parce que c'était quelque part où est-ce que les gens pouvaient rentrer, tu sais, c'était un endroit public, fait qu'on est quand même, t'imagines, il y a un terroriste qui rentre, ouh, il est mal foutu.
Non, no bueno.
Il est dans la merde.
No bueno.
C'est quoi le nom du karaté?
Oui?
C'est du karaté Goju-Ryu.
Et c'est où, admettons, s'il y a des gens qui sont intéressés?
C'est à l'école martiale, qui est une école de karaté à Blainville.
OK.
Donc, sur la rive nord de Montréal.
On va mettre ça en description pour les gens, les nerds de karaté qui seraient intéressés.
Nice. Ah, c'est cool.
Le Goju-Ryu, dans le fond, c'est une sorte de karaté qui mêle rigidité et souplesse.
Ouais.
Donc, c'est le karaté. Et également, c'est du karaté do, pas juste du karaté. Donc là, je vais préciser la différence parce que...
Tu fais ça dans une piscine? Du karaté do?
C'est exactement ce que la plupart des gens pensent. Do, D-O.
OK, OK,
c'est
je comprends.
C'est un autre mot. Dans le fond,
mais ça serait quand même stylé comme version
de
karaté.
Ce serait malade.
Karaté,
moi, j'ai déjà essayé d'aller faire du karaté dans l'eau. C'est un peu difficile.
Eh bien oui, là, avec que... la rétention, mettons, de l'eau.
Exactement. Fait que moi, à un moment donné, je me suis installé dans la piscine, puis j'ai fait, OK, je vais faire toutes mes katas, puis je vais voir c'est lesquelles qui sont les plus efficaces à faire dans l'eau.
Là, t'as pensé à Aquaman. Là, t'as pensé à Aquaman, tu dis non, ça sera pas ma carrière aujourd'hui.
Ouais, non, je n'ai pas devenu Aquaman. C'est pour ça que je suis ici pour faire des chroniques. C'était mon plan B. maintenant, qu'est-ce que je dis? Donc, le karaté do, dans le fond, karaté, ça veut dire main vide. Kara, c'est vide, et té, ça veut dire main. Ouais. Do, ça veut dire la voix de.
Ouais.
Donc, le karaté do, c'est la voix de la main vide.
Ouais. Hey, ça m'inspire pour mes toiles.
C'est cool, hein?
Je passe souvent des mains, là. Hey, tu me donnes du jus, là, c'est le fun.
Puis, dans le fond, il y a beaucoup d'art japonais. Je sais pas si c'est tout, j'irai pas jusqu'à dire que c'est tout, mais il y a beaucoup d'art japonais qui ont le nom de l'art, et il y a également do. Ouais. Le do, c'est toujours la voix de. Et la voix de, dans la réalité, c'est l'aspect philosophique. C'est l'aspect réflexion.
Oui, parce qu'il y a beaucoup aussi d'éthique et de valeurs liées à des pratiques, à des arts martiaux, en fait.
Oui.
Parce qu'il faut. Parce que oui, t'as bien beau être capable de défoncer tout le monde, mais il faut quand même que tu appliques certaines éthiques pour être capable de respecter cet art-là aussi.
Le but, c'est de développer pas juste le corps, mais aussi l'esprit et l'homme. Appelez ça comme vous voulez, là. Mais la patente à gosse qui fait que tu réfléchis puis que tu fais des affaires qui ont de l'allure.
Ouais.
Fait que malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui omettent la partie do.
Ah oui? Ouais.
Parce que c'est plus dur. Faut réfléchir.
Oui, parce que t'es rendu comme en mode philo aussi, mais pour la plupart des gens qui commencent cette pratique-là, en fait, j'imagine qu'ils sont pas là juste pour réfléchir sur leur vie puis toutes leurs actions qui ont fait.
Ils ont passé une longue journée de travail.
Ils sont comme, hey, je veux juste bouger puis péter les blanches, s'il te plaît. Là.
C'est ça, si pour toi, c'est uniquement physique, tu ne veux pas l'aspect réflexion, va faire du karaté, va faire quelque...
Mais pas du karaté, d'eau.
C'est ça, pas la portion d'eau, mais si de prendre le temps de réfléchir, OK, on vit dans quel monde, puis qu'est-ce que je veux, puis quelle valeur est-ce que je veux mettre. T'sais, toutes les histoires que je vous raconte depuis le début, tous les contes philosophiques, toutes les philofables, ça vient de là.
Ah, ouais!
Oui, c'est les ateliers réflexifs. C'est à la fin des cours et c'est un 10-15 minutes, gros max.
Comme une méditation, mais comme ouverte en groupe, genre?
Ben, plus un partage de connaissances. Dans le fond, notre prof, qui s'appelle Sensei Marilou.
Sensei!
Au d'amour. Elle fait beaucoup de lectures et elle va venir nous partager. Fait qu'elle lit, mettons, sur la plasticité du cerveau. Là. Elle va prendre à chaque année un thème. Par exemple, il y a une année, on a eu l'attention. Il y a une année où est-ce que c'était les émotions. Et pendant tout ce moment-là,
Pendant tout un an,
elle lisait énormément d'ouvrages, elle s'intéressait au sujet et elle revenait nous voir et nous livrait un petit passage, un petit extrait.
À vous faire réfléchir.
À nous faire réfléchir tout doucement.
Ouais.
Ah, sensei. Je veux un sensei aussi. Nice. Je veux pas faire des karaté, mais je veux un sensei de même aussi.
C'est tellement cool. Mais moi, je parle beaucoup de sport parce que je fais du karaté, mais il y a de la calligraphie japonaise, par exemple, sensei. Et ça aussi, il y a la portion d'eau. Fait que va voir le...
C'est tellement l'opposé de ma pratique artistique, le guys. Là. Genre la calligraphie japonaise, puis toute la sérénité qu'il y a en arrière de ça, c'est à l'opposé même de moi dans mon studio. Là. Dans mon studio, j'écoute de la grosse musique trash, là, du gros punk rock dégueu techno de Birmingham, là, de Berlin. Puis, genre, on dirait que je suis tous les traumas de ma vie, puis c'est complètement à l'opposé, genre, de la technique japonaise d'être dans la lenteur et tout. Là. J'aimerais peut-être apprendre de ça. Je voudrais peut-être aller de l'autre côté du spectrum.
Mais ça vaut la peine d'aller faire un atelier, juste un atelier à maner pour voir ça ressemble à quoi. Puis, qui sait, peut-être que ce que tu essayes de sortir avec tout cet environnement, peut-être qu'il sortirait aussi dans cet autre environnement-là. Qui sait? Puis juste le fait de le faire, ça fait qu'ensuite, tu peux... Ça devient un pilier que tu tombes d'un côté ou de l'autre. Ça te situe. Tu fais comme, OK, ce que je fais, la façon que tu pratiques ton art en ce moment, t'es comme, là, je suis sûr, tu le sais, c'est ça que tu veux faire. Mais là, t'es encore plus sûr. Ça te confirme.
Ben, à 100%, c'est comme quand j'ai été au cégep en art puis à l'université en art, je me suis toujours dit, hey, je vais pas là pour faire la même chose. Je vais être là pour apprendre, puis challenger, puis apprendre, essayer des nouveaux outils.
Ouais.
Fait que, j'ai fait de la sculpture. OK, non, j'ai pas trippé. Sculpture de bois, le plâtre, j'ai fait des circuits électriques, blablabla. Tu sais, j'ai essayé plein de styles de médiums différents. Puis je pense que c'est tellement important, même pour n'importe quel type de médium, puis même si t'es pas en art en général. Encore une fois, de cultiver ta curiosité puis de te challenger, de te sortir de ta zone de confort, là, Let's go, Sensei, c'est ça qu'il faut.
Pour vrai.
Ben oui.
Nice.
Guys, merci tellement pour cette belle émission. Là.
Ouais, c'est cool.
C'est
merci,
smooth. Merci j'aime tellement ça. Je vois vous dire, j'aime vraiment beaucoup les sujets que vous m'apportez à chaque semaine. Puis j'ose espérer que ben, on s'alimente entre nous. T'sais, j'ai vraiment l'impression que les conversations qu'on a là, puis chers auditeurs, auditrices, j'espère aussi que vous appréciez ça autant que moi. Tout le beau matériel que nos animateurs et animatrices nous apportent, vraiment, je suis grateful.
Quel bonheur et merci de nous laisser cette
ben
liberté,
oui.
cette
surtout
autonomie.
Surtout merci, oui, c'est ça. Merci
yes.
à toi.
Puis n'hésitez pas surtout à ceux qui nous écoutent, ben, en fait, de nous écrire, de nous proposer des sujets si vous voulez... qu'on passe des artistes en particulier en entrevue, qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Instagram à danslesairs.podcast. Passez une excellente semaine et on se voit lundi prochain. Bye!